RTS La Première présente Mystifica Science, un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques, avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini.
Les impostures scientifiques dans le domaine archéologique sont assez fréquentes. Il faut dire qu'elles sont simples à concevoir. Mais l'histoire que va évoquer l'agente Leslie a pris des proportions phénoménales. En 1869, dans le village de Cardiff, dans l'état de New York, des ouvriers exhument un corps pétrifié. Un corps de 3,16 m. C'est le géant de Cardiff.
Si vous le voulez bien, nous allons remettre dans son contexte cette découverte. 1869 aux États-Unis. C'est la fin de la guerre de sécession. Dans les campagnes, les anciens soldats démobilisés reprennent possession de leurs champs. Il faut aussi dire, parce que c'est à de l'importance dans cette histoire, que la religion, en l'occurrence protestante méthodiste, prend alors une place très importante.
Vous voulez parler de la religion parce que les géants sont présents dans certains textes religieux, c'est ça notamment le livre de la Genèse.
Oui. Mais n'allons pas trop vite. Parlons plutôt de William Newell, un jeune fermier qui a servi dans l'armée nordiste. Il exploite, en 1869, une petite ferme héritée de ses parents à Cardiff, un hameau tout au nord de l'état de New York, pas très loin du lac Ontario. Nous sommes à presque 400 kilomètres de New York City. La nature est parfaitement préservée. Or donc, notre jeune fermier, William Newell, a besoin d'améliorer l'irrigation dans son exploitation. Il décide alors de bâtir de nouveaux puits. Et pour ce faire, il fait appel à deux ouvriers puisatiers.
Les puisatiers, donc, ce sont eux qui vont creuser et, j'imagine, faire une étrange découverte.
Oui, c'est ça. La nappe phréatique qu'ils veulent atteindre, c'est à une dizaine de mètres de profondeur et, à l'époque, on fait ça à la pelle.
Oui, alors pour faire un jeu de mots, c'était pas de la tarte, évidemment.
D'autant qu'effectivement, rapidement, les ouvriers butent sur une surface rocheuse, du granit.
Alors attendez là. Au moment où les ouvriers tombent sur ce granit, est-ce qu'ils sont seuls?
Mais non. William Newell supervise les travaux et il leur conseille de reprendre le forage juste à côté. Et là, même obstacle, du granit. Étonnant. Alors, l'un des ouvriers se met à genoux et dégage un peu de terre à la main parce que ce granit lui semble étrange. On dirait qu'il est sculpté. On dirait même un bout d'une épaule, puis un bras. À la fois inquiet et curieux, les trois hommes dégagent en quelques heures un corps entier. C'est la stupéfaction. Le visage de l'homme de pierre semble figé, comme cristallisé dans une expression de vie. Et Newell avance l'idée qu'il pourrait s'agir d'un homme pétrifié.
Une sorte de fossile, donc, comme on en retrouve parfois pour des dinosaures ou des poissons pétrifiés. Donc, techniquement, c'est pas impossible. Mais disons que l'idée de Newell paraît un peu saugrenue. Pourquoi est-ce qu'il ne pense pas, je sais pas, une sorte de statue?
Bon, cet homme de pierre est dans une posture assez surprenante. La main droite posée sur le bas-ventre, la main gauche sur le dos. Il a le torse légèrement bombé, comme s'il était en train d'aspirer. Les jambes en légère rotation. Et puis, aussi un pénis assez disgracieux. Donc, en fait, il ne ressemble pas à une statue. Et puis, je vous ai déjà parlé de cette étrange expression sur le visage.
D'accord, oui.
Donc, on exhume l'homme pétrifié de terre. Il mesure 3,16 m. Ses index mesurent 20 cm. Très vite, les ouvriers improvisent une petite cérémonie de recueillement devant la dépouille. Et durant cette cérémonie, on fait la première photo du géant. Et on remarque qu'il y a déjà un quatrième homme autour du géant.
Donc attendez, il y a les deux puisatiers, il y a donc Newell qui est le fermier à qui appartient l'exploitation. Alors, et qui est ce quatrième homme?
Un certain George Hull. C'est un homme plus âgé, proche de la retraite. Il est le cousin de Newell. George Hull est un homme d'affaires. Il a bien mené sa barque dans la fabrication des cigares. Et comme il est plus instruit et mieux rompu aux affaires que Newell, c'est lui qui va prendre le relais dès que l'affaire va s'ébruiter. Et, croyez-moi, elle va s'ébruiter.
Alors j'imagine que oui, mais attendez, c'est quand même pas curieux que George Hull soit déjà sur place à peine on a exhumé le corps de ce géant?
Bon, c'est vrai qu'en 1869, le téléphone n'est pas encore inventé. Donc, on peut se demander ce que le cousin Hull fait dans ces parages.
Ça.
En tout cas, il va bien aider Newell à organiser la venue du public qui, dès les jours suivants, débarquera en masse sur les lieux de la découverte. Parce que, si le téléphone n'est pas encore d'actualité, en revanche, la presse écrite est très lue. Et rapidement, la presse nationale, The New York Herald, s'intéresse au géant de Cardiff. Newell improvise un tente autour de sa découverte, fait payer 20, 30, puis 50 cents la visite. Et les visiteurs affluent. Rapidement, un homme d'affaires assez important, David Hannum, propose à Newell de lui vendre son homme de pierre pour 23 000 dollars, l'équivalent, si on se déplace en 1869, de 500 000 francs suisses aujourd'hui. Newell accepte le deal sur les conseils de Cousin Hull.
Donc ça, c'est une somme effectivement colossale. Mais attendez, là, moi, ce qui m'étonne, c'est que personne ne se pose la question de savoir si c'est un authentique homme pétrifié.
En tout cas, ce David Hannum ne se la pose pas. Ce qu'il veut, c'est exposer les géants et gagner de l'argent. Mais pour répondre à votre question, dans les tout premiers jours, non. Non. Personne ne semble douter de l'authenticité du géant. Dans la presse écrite, c'est plutôt la nature du géant qui est discutée. Est-ce un des géants bibliques cités dans la Genèse? Est-ce le corps pétrifié d'un prophète d'une tribu d'Amérindiens qui vivait dans la région? Et d'autres théories. Assez rapidement, un paléontologue de l'université de Yale vient observer le géant. Avant même que Hannum ne le rachète. Et, sans constat et sans appel, l'homme pétrifié est un faux, un statue. Certaines alvéoles à la surface de sa peau sont dues à des perforations mécaniques. On retrouve aussi des traces de ciseaux et d'acide. Des traces qui prouvent qu'il s'agit d'une sculpture. Et notre paléontologue fait une déclaration publique pour que la vérité soit rétablie. Il n'y a pas d'homme pétrifié, pas de géant de Cardiff.
Donc, c'est la fin de l'histoire.
Penses-tu? Pas du tout. Parce que, rappelez-vous, rien n'est plus facile que de faire croire l'impossible à celui qui veut y croire. Et la population veut croire aux géants. Et surtout, elle veut le voir. Du coup, ni la population, ni les journaux de l'époque ne s'intéressent à la vérité scientifique. Donc Hannum, celui qui a racheté le géant, commence une tournée qui mènera le géant jusqu'à New York City. Et c'est un triomphe. Le succès est tel que finalement, il intéresse également le célèbre promoteur de cirque, Phineas Barnum.
Oui, celui dont on a récemment raconté la vie en version un peu édulcorée dans le film The Greatest Showman, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Qui se définissait lui-même comme le prince des charlatans. D'ailleurs, il avait déjà exposé des sirènes et des femmes à barbe, ce que l'on appelle des « freak shows ». Et Barnum veut maintenant racheter le géant de Cardiff à Hannum. Il va jusqu'à lui proposer 150 000 dollars.
Mais alors attendez, cette somme, à cette époque, c'est plus de 3 millions de francs suisses aujourd'hui, si je prends même taux de change que tout à l'heure. Donc c'est un vrai délire. Alors qu'un paléontologue a déjà dit qu'il s'agissait d'un faux, d'une simple sculpture.
Oui, exactement. Et en plus, Hannum refuse l'offre de Barnum. Mais Barnum n'est pas du genre à baisser les bras. Et ce n'est pas naïf non plus. Alors, il envoie quelques dessinateurs observer le géant. Il utilise également les photos existantes et il fait réaliser une copie à l'identique du géant de Cardiff. Mais en plâtre, cette fois. Plus simple à fabriquer, meilleur marché et plus simple à transporter. Dès 1870, il expose à New York ce qu'il définit comme la réplique exacte du fossile de Cardiff. Le succès est immense. D'autant que Barnum sait très bien comment organiser ce genre d'exposition. Et c'est là que l'histoire va connaître un dénouement inattendu. Hannum est vexé par le succès de Barnum avec sa vulgaire copie. Il lui intente un procès.
Donc un procès dans lequel va ressurgir forcément la question de, entre guillemets, l'authenticité du géant de Cardiff.
Absolument, forcément. Si Barnum arrive à convaincre le jury que son géant est une copie d'un faux, un faux de faux ne pourra pas être, juridiquement parlant, être déclaré faux. Mais curieusement, Barnum n'a pas l'air de vraiment se battre pour expliquer que l'homme pétrifié de Cardiff est une contrefaçon.
Bon, alors ça, c'est assez étrange. Donc, qu'est-ce qui s'est finalement passé dans ce procès?
Oh my goodness, un coup de théâtre. Juste avant que le jury ne délibère, un homme se lève dans la salle et il prononce une phrase assez courte. « Je m'appelle George Hull et ce géant est un faux. Je le sais, car c'est moi qui l'a fabriqué. » Pendant un instant, le temps s'arrête dans la salle d'audience. Puis, quelques questions supplémentaires sont posées à George Hull et le jury est convaincu. Le géant de Cardiff est un canular. Barnum ne peut pas être attaqué pour avoir plagié un canular.
Ok. Et donc, alors, j'imagine que c'est quand même la fin de la carrière de ce phénomène de foire qui est devenu entre-temps le géant de Cardiff, puisque maintenant tout le monde sait que c'est un faux.
Non, non, non. Étonnamment, le public continue de payer pour aller voir les deux géants de Cardiff.
Bon, alors dites-moi, George Hull, le cousin de Newell, était drôlement fort comme mystificateur. Son canular géant est devenu une authentique star.
C'est vrai que pour un entrepreneur qui avait gagné sa vie en fabriquant des cigares, il a extrêmement bien mené son imposture. Et puis, il n'a rien laissé au hasard. Hull a tout d'abord embauché des hommes pour extraire un bloc de gypse de 3,20 mètres de long en leur disant qu'il était destiné à un monument dédié à Abraham Lincoln.
Ok, pour ne pas parler de cette histoire. Ça reste secret. Ensuite,
il a expédié le bloc à Chicago, où on a engagé un tailleur de pierre allemand pour le sculpter à la ressemblance d'un géant en le faisant jurer de garder le secret. Différents colorants et acides ont été utilisés pour donner au géant une apparence ancienne et altérée. Et sa surface a été frappée à l'aide des aiguilles à tricoter pour simuler les pores. En novembre 1868, Hull transporte le géant par chemin de fer jusqu'à la ferme de son cousin, William Newell.
Bon, ça ne devait pas être très discret quand même d'arriver avec un énorme géant comme ça sur une ferme.
Ouais, vous vous doutez que le géant était dans un caisson bois quand même.
D'accord.
Hein, ouais. Mais surtout, et c'est là où George Hull a été très malin. Après avoir enterré le géant avec son cousin, en toute discrétion, il a attendu un an avant de faire venir des ouvriers pour creuser un puits.
Donc, comme ça, même si quelqu'un avait pu s'étonner de l'arrivée d'une grosse caisse, il avait eu tout le temps de l'oublier. Mais dites-moi, reste une question fondamentale. Pourquoi est-ce que George Hull a créé cette imposture pour gagner de l'argent?
Oui, c'est vrai. Parce que c'est vraiment vrai, ça a été une bonne affaire. Il a dépensé 2600 dollars pour monter son canular et il a vendu le géant 23 000 dollars de l'époque.
Bonne affaire.
Oui, oui. Mais non. En fait, George Hull était un athée. Et c'est lors d'une soirée en 1868 que l'idée lui est venue. Un dîner entre les notables de la ville. Et un révérend méthodiste, voilà les méthodistes, une dispute éclate sur la véracité historique des récits bibliques, en particulier sur le chapitre 6 de la Genèse, qui fait référence au géant qui était sur la terre en ces jours. George Hall s'insurge et plaisante, ah oui, géant comme dans la mythologie grecque. Mais les invités se rangent tous derrière l'autorité du révérend et la soirée tourne à l'engueulade. George Hall est sommé de quitter les lieux. Il lui vient l'idée de fabriquer une fossile de géant pour le tendre en piège. Et il rigolera bien quand toutes ces grenouilles de bénitier tomberont dans le panneau. Il n'aura plus qu'à leur dire que ce géant est une blague.
Oui, en somme, George Hall n'avait pas prévu que son géant deviendrait une sorte de bête de foire. Et tout ceci sans que les méthodistes ne s'intéressent particulièrement au géant.
Absolument. Donc c'est sans doute déçu, mais riche, qu'il a avoué son forfait devant le tribunal de New York. Son canular a extrêmement bien fonctionné, au-delà de ce qui était imaginable même. Mais sans que l'Église ne s'y intéresse.
Cet épisode de Mystifica Science a été réalisé par Yves Roulin. Éditeur numérique, Sébastien Blanc. Attaché de production, Annette Kléber. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Et ne manquez pas notre prochain épisode qui sera mis en ligne lundi prochain.